Radio Courtoisie, histoire à la loupe.
On dit que c'est George Stephenson qui aurait découvert le principe de l'adhésion du mouvement des roues sur une surface lisse. Pour en être sûr, consultons l'intéressé lui-même. Est-ce exact, Monsieur Stephenson ? Nous aimerions comprendre. Pouvons-nous vous demander de vous prêter à ce petit jeu moderne de l'interview ?
Ah, bien sûr, c'est amusant. Depuis ma mort en 1848, j'ai pris du recul sur ma propre vie. J'y vois plus clair. Et je serais heureux de faire la conversation avec vous, en vous livrant quelques secrets.
Histoire à la loupe, une émission de Radio Courtoisie, récit de Patrick Simon, réalisation Sandrine Moutier.
Alors, est-ce vous qui avez découvert le procédé de l'adhésion du mouvement des roues sur une surface lisse ?
Oh, ce n'est pas maintenant, presque deux siècles après ma mort, que je vais tirer la couverture à moi. Non, je n'ai rien découvert du tout, cher monsieur. Beaucoup de gens avant moi avaient fait cette trouvaille. Les Égyptiens, il y a très longtemps, pour construire les pyramides, faisaient rouler des pierres sur des plans inclinés de bois ou d'eau. Les Romains avaient fait des routes en pierre pour les chars, et même en marbre, parfois. Et ils les avaient entaillées de profondes ornières, par exemple à Pompéi. Et au Moyen-Âge, il y avait des voies charretières. Et dans les mines, des chemins guidés. Il y avait même en Suisse et en Alsace des chariots traînés par des chevaux. C'était vers 1540, je crois. Et puis, un peu avant moi, William Jessop avait inventé les rails à ornières pour les roues à boudin. C'est comme ça qu'il a ouvert, en 1802, le Surrey Iron Railway. Encore avant, en 1769, James Watt avait conçu la première machine à vapeur. Et il y en a eu bien d'autres, parfois des astucieux, mais ces astucieux ne savaient pas exploiter leur invention. Richard Trevithick, par exemple, était un génie dont les inventions sont restées complètement méconnues. Ah, ça me fout en rogne, rien que d'y pencher. Il aurait dû faire comme moi, Bonchamp. En 1825, je conduisis en grande tenue d'apparat ou de cirque ma première locomotive à vapeur, avec casquette, médaille et pompons dorés, et derrière la loco, un wagon rempli de musiciens. C'était la fête, tonnerre de feu. Il y avait foule pour ce spectacle. Des enthousiastes, des fervents. Je leur ai donné la foi.
Vous avez su vous vendre.
Ah, en fait, tout a commencé en 1813, quand je travaillais pour une houillère dans le Nord. J'avais persuadé Lord Ravensworth, mon employeur, de me laisser construire la Blücher. J'avais choisi le nom de ce général prussien qui avait gagné la bataille de Waterloo grâce à sa rapidité. C'était la première locomotive à roues adhérente. Ravensworth y croyait et on m'a laissé faire. Mais la Blücher tirait les 8 wagons chargés de 30 tonnes de charbon à la vitesse de 6 km/h. Ravensworth trouvais ça déjà pas mal. Mais certainement pas moi, punaise. C'était la vitesse d'un piéton pressé. C'était nul. J'ai donc cherché un moyen d'augmenter la puissance en injectant de la vapeur. Ce jet canalisait de la vapeur le long d'une cheminée et provoquait un appel d'air qui avait pour effet d'accélérer le tirage fortement. Et la vitesse est alors passée à 30 km/h.
Vous voulez dire que les grandes découvertes se font par hasard ?
Pas tout à fait. Moi, je voulais simplement sortir mon charbon de la mine. Mais à ce moment, je n'avais pas du tout l'idée des conséquences.
Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font.
Eh, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, ce n'est pas tout à fait le hasard. C'est une sorte de tâtonnement, de flair, d'intuition.
Une intuition créatrice, mais sans le savoir.
Comme la première chaudière dans les manufactures.
Qu'est-ce qu'elle avait de spécial ?
Eh bien, on avait posté un petit garçon devant la machine. Il devait ouvrir et fermer alternativement la communication entre la chaudière et le cylindre. Si le piston montait, il devait ouvrir. S'il descendait, il devait fermer. À moins que je ne fût le contraire, je ne sais plus trop. Or, c'était un peu lassant et répétitif. Et il avait envie de jouer avec ses camarades qui étaient autour de lui.
Ah, mais je la connais, cette histoire. Elle est racontée par Adam Smith.
Ah bon, alors vous connaissez la suite?
Oui, le petit garçon a mis un cordon au manche de la soupape qui ouvrait cette communication, et en attachant le cordon à une autre partie, cette soupape s'ouvrirait et se fermerait toute seule.
Voilà. Eh bien, j'ai fait la même chose avec mes wagonnets.
Comme le cafetier Edward Lloyd qui a inventé l'assurance maritime et est passé du métier de cafetier à celui d'assureur.
Moi aussi je la connais, votre histoire. C'était au moins un siècle avant ma locomotive. Edward Lloyd n'était pas un ingénieur comme moi, étudiant les choses rationnellement.
Exact, mais grâce à ses grandes oreilles, il savait écouter les conversations en servant les consommations. Il a d'abord eu l'idée de l'estrade, puis de la cloche. Pas besoin forcément d'avoir de la rationalité pour innover, vous savez. L'intuition suffit pour imaginer quelque chose qui n'existait pas avant. La participation au profit, sans le moindre apport, cela ne s'appelait pas assurance à l'époque et aurait pu avoir l'air d'une sorte d'escroquerie, non ?
Ah, vous me faites bien rire avec votre théorie de... Comment dites-vous, l'intuition créatrice ?
C'est Bergson qui l'a développé, mais c'était un siècle après vous.
Oui, c'est un truc qui vous met sur la voie. Hein, tout d'un coup, on pète un plomb, mais dans le bon sens. On se dit, mais on pourrait puiser le pétrole par forage, ou on pourrait entourer les roues en bois d'un tube à caoutchouc rempli d'air, ou encore, on pourrait le démonter, ce pneu.
Ce pétage de plomb génial, ça n'arrive pas souvent.
Ah oui, une fois tous les 50 ans.
Une fois par vie.
Parfois deux.
Il y en a qui ont plus de chance. Louis Pasteur, par exemple. 3 fois dans sa vie.
En réalité, c'est une sorte d'enchaînement. J'ai trouvé le principe de la locomotive pour faire seulement quelques kilomètres. Puis l'idée de transporter plus seulement du charbon, mais des cargaisons diverses ou des voyageurs. La découverte vous entraîne dans un cercle vertueux.
Et puis après, les boudins des roues faisaient rouler les trains sur le sommet des rails et non plus des rails creux. C'est cette trouvaille qui a simplifié beaucoup l'exploitation, car elle a permis les aiguillages, ce qui a ouvert la voie au véritable chemin de fer. Ce que vous avez là mis au point était génial.
À vous autres, les intellectuels, vous avez toujours de bonnes explications a posteriori pour reconstituer l'histoire. C'est flatteur pour moi. Mais ce n'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Le coup de génie n'arrive pas par hasard. Comprenez ça, l'ami. Le coup de génie, il est préparé par un long processus. Faire rouler les trains sur le sommet des rails, ce n'était que la conséquence d'une série de découvertes faites auparavant par d'autres. Moi, au début, je n'avais aucune idée précise de ce qui allait être le transport ferroviaire. Mon objectif était bien plus modeste. Au départ, ce que je voulais, c'était simplement faciliter le travail de mes ouvriers pour remonter le charbon des galeries de ma mine. Monter ces sacs à dos d'homme, c'était un travail fatigant, salissant et même épuisant. Et en tout cas, peu efficace quant au rendement. Donc, je me suis dit que je pourrais peut-être mettre au point un système de wagonnets qui tirerait le charbon grâce à des rails fixes. Je n'ai fait que reprendre le système des chemins guidés au Moyen-Âge.
Mais alors, pourquoi n'a-t-on pas avant vous et dès le Moyen-Âge pratiqué ce transport à grande échelle ? Puisqu'ils avaient déjà les voies charretières, c'était possible.
Pourquoi ? Eh bien, sans doute pour la même raison que lorsque les Chinois ont découvert la poudre ou l'imprimerie, ils avaient inventé, oui, mais n'avaient pas d'exploiteurs capitalistes, ni de marché de consommateurs.
D'exploiteurs ?
Oui, des types comme moi, qui voulaient faire de l'argent grâce à leur découverte en l'étendant à grande échelle. Le transport de 70 tonnes de charbon par petit wagon de la mine jusqu'à l'aire de livraison m'a donné une autre idée. Je pourrais peut-être transporter d'autres choses que du charbon, par exemple des voyageurs, sur une plus grande distance et faire payer pour ce service.
Faire payer des clients ?
Oui, ça c'est le marché. Mais pour y arriver, il faut des gens qui y croient.
Facile, non ?
Pas du tout. Parfois, les gens se méfient de la nouveauté. En Chine, ils n'ont pas cru à l'imprimerie ni à la poudre. Et ils sont restés comme ils étaient pendant plusieurs siècles, sans rien changer à leurs habitudes. Il a fallu attendre 1434 et Gutenberg pour exploiter une presse à imprimer. Presque 3 siècles de retard.
C'est long, mais pourquoi cela a marché en Allemagne et pas en Chine ? L'offre ne crée-t-elle pas sa propre demande ?
Ah ben, encore faut-il qu'il y ait un minimum d'intérêt ou de foi. En Allemagne, les gens voulaient lire, voulaient s'informer, voulaient s'instruire.
Et pas en Chine ?
Ça, je l'ignore. Mais pour qu'il y ait des gens intéressés, là encore, il faut des exploiteurs, des types qui disent « Regardez comme c'est utile de savoir lire et écrire, et comme c'est facile et qui arrive au bon moment. » Si l'immense majorité des personnes ne sait ni lire ni écrire, ils se diront « À quoi bon ?» et ils préféreront aller travailler la terre, sans parler des ennemis de la nouveauté.
Quels ennemis ?
En Chine, les mandarins et l'élite tenaient à ce que chacun restât à sa place. Quand on exploite du nouveau, on nuit toujours à quelqu'un. Le transport ferroviaire, ça nuisait aux transports fluviaux, ainsi qu'aux transports de diligence. Moi, je ne faisais pas partie de l'élite. Mon père était ouvrier, et je n'ai appris à lire qu'à 18 ans. Ce n'est qu'ensuite que j'ai étudié la mécanique pour devenir ingénieur.
Vous avez alors conçu une série de locomotives à vapeur.
Oui, on a installé devant les wagonnets une chaudière cylindrique horizontale munie de 4 roues, elle-même entraînée à l'aide de manivelles par les pistons de 2 cylindres verticaux.
Après, vous avez voulu augmenter la vitesse des locomotives. Et, cessant d'exploiter la houillère, vous êtes devenu un véritable constructeur de voies ferrées, pas seulement pour les mines.
Et d'abord, j'ai construit la fusée en 1829 pour relier Liverpool à Manchester et créer la première ligne de voyageurs avec non seulement les voies, mais aussi les ponts, les tunnels et même un pont oblique qui enjambe une voie ferrée de biais. Mais il est arrivé que les promoteurs de la ligne aient du mal à réunir les capitaux. En 1830, par exemple, la plupart des ressources locales à Leicester avaient été investies dans les canaux. Il n'en restait plus assez pour construire une route ferroviaire. Or, j'en étais sûr, le besoin était évident et le succès serait au rendez-vous. Car on était à côté du site de Snibstone, inexploité, qui contenait beaucoup de charbon. Il y avait un fort potentiel financier, car à cette époque, la ville de Leicester, qui était riche en production manufacturière, était approvisionnée en charbon par canal.
Et où avez-vous trouvé les capitaux nécessaires ?
Oui, j'avais un réseau de relations à Liverpool. Ils avaient vu ce que j'avais déjà fait, même s'ils n'étaient pas de Leicester, ils ont eu confiance et ils ont investi. Quant à moi, j'ai aussi mis de l'argent et surtout j'ai acheté le domaine de Snibston.
Si vous l'avez acheté pour pas cher, pour ensuite y creuser une mine à charbon et en tirer un bénéfice très lucratif, certains auraient pu vous reprocher d'avoir ainsi réalisé un profit indécent.
Aucun profit n'est indécent, cher monsieur. Seuls ceux qui le pensent le sont indécents. D'ailleurs, c'est grâce à ces profits que j'ai pu soutenir financièrement les veuves qui avaient eu un mari mineur mort accidentellement dans la mine.
En tout cas, profit ou pas, vous avez cru en ce que vous vendiez et ce fut un succès.
Ah, complet. Mais c'était l'époque où j'étais reconnu. 15 ans avant, j'étais totalement ignoré de tous et je ne faisais pas partie de l'establishment. Je venais d'un milieu modeste d'autodidacte. On l'a bien vu avec l'histoire de la lampe de sécurité.
Ah, racontez-nous cette histoire de la lampe de sécurité, s'il vous plaît.
Deux types de lampes se sont trouvées en concurrence en 1815. L'objectif était d'éviter les explosions causées dans les mines par les flammes nues, dépourvues de protection. Un éminent scientifique très réputé, venu des Cornouailles, Humphrey David, avait conçu une lampe entourée d'un écran de gaz. Ma lampe, à moi, elle avait une plaque perforée contenue dans un cylindre de verre. La lampe de Davy était approuvée par une méthode scientifique et soutenue par les sommités académiques et savantes du Royaume-Uni. Ma lampe n'avait pas ce prestige, car je n'avais reçu aucune instruction jusqu'à 18 ans. En plus, je parlais avec l'accent du Nord, ce qui me faisait apparaître comme un piquenot par rapport aux gens de la Royal Society de Londres. Mais ma lampe avait tout de même un avantage non négligeable. J'avais fait la démonstration concrète de sa fiabilité en la démontant dans la mine devant deux témoins et en la tenant devant une fissure d'où sortait le grisou. Davy m'a par la suite accusé d'avoir volé son idée. Finalement, une commission jugea qu'il n'y avait pas eu vol, mais le conflit continua néanmoins. Comment un plouc sans instruction aurait-il pu trouver une solution sûre ? C'est ce que disaient les détracteurs, qui soulignaient que la lampe Davy donnait plus de lumière, ce qui était exact. Mais un jour, il y eut un incident à Ox Colliery, Barnsley, où les deux lampes se trouvaient simultanément en fonction. Il y eut un fort afflux soudain de gaz, mes lampes s'éteignirent aussitôt, alors que les lampes Davy devinrent rouges à leur sommet, avec risque d'explosion. Donc je vous pose la question, qui était le meilleur ? La chomité soutenue par les gens de la haute ou le plouc ?
Un orgue majestueux se fait entendre en jouant du bac. À ce moment, l'obscurité tombe et se pointe dans une atmosphère joyeuse agrémentée d'une sonnerie de trompette et d'un coup de cymbale bien cinglant. Une sorte d'huissier ou d'appariteur habillé d'une redingote, d'une chaînette en or et d'une lourde canne. Après quelques coups de canne, il annonce « La parole est au colonel Drake » et Edwin Drake paraît. Puisque le bon Dieu a permis à George Stephenson de descendre parmi vous, il n'y avait aucune raison de ne pas me le permettre aussi à moi, et c'est pourquoi vous me voyez maintenant.
Et pourquoi donc vous l'a-t-il permis ?
C'était juste pour un instant, pour apporter une démonstration supplémentaire à l'appui du raisonnement que George vient de tenir.
Parce que là-haut, vous vous appelez par vos prénoms.
Nous n'en avons pas besoin. Nous communiquons comme les anges par la pensée. Je disais cela dans votre langage à vous, pour que vous compreniez, car vous êtes loin de tout comprendre. Le Très-Haut nous conseille de nous adapter à chaque interlocuteur quand il nous fait la grâce de nous permettre de descendre incognito.
Bon, alors, qu'est-ce que c'est votre démonstration?
C'est au sujet des Chinois qui ont découvert l'imprimerie 3 siècles avant Gutenberg. J'ai un exemple plus récent et qui me concerne.
Vous voulez dire que d'autres que vous ont découvert l'usage que l'on pouvait faire du pétrole?
Oui. Je peux le dire, car comme George, j'ai pris du recul 140 ans après ma mort.
Ce n'est pas votre intérêt de le dire.
140 ans après ma mort, l'intérêt, c'est la vérité et non pas l'image.
Nous vous écoutons.
Ce n'est pas moi qui ai foré le premier puits de pétrole.
C'est pourtant ce que tout le monde dit.
5 ans avant, en 1854, Ignacy Lukasiewicz avait foré un puits. C'était à Bobrica, en Galicie, dans le sud de la Pologne, qui faisait partie de l'Empire austro-hongrois à l'époque. Et quelques années après, il y avait eu encore des forages par d'autres ingénieurs, les uns au Canada et les autres dans le Caucase. Ils avaient trouvé.
Et qu'est-ce que ça prouve?
Si ça n'a marché que chez moi, ce n'est pas parce que je suis ingénieur innovateur. C'est parce que je suis aussi entrepreneur. En fait, je pratique un tas de métiers. Par exemple, j'ai conduit des trains. C'est pour cela que, contrairement aux autres, j'ai bénéficié d'un marché.
Quel marché?
Mon pétrole permettait de produire du kérosène qui servait à éclairer, à fournir de l'électricité. Mon puits a donné des idées à d'autres. Ça a été la ruée vers l'or noir. La Pennsylvanie s'est couverte de Derrick, car chez nous, aux États-Unis, on est propriétaire aussi du sous-sol de son terrain. Bref, c'est là, et pas à Bobrica, ou dans le Caucase, que l'industrie pétrolière est née. Tout le monde m'a copié, car j'ai commis l'erreur fatale, pour un entrepreneur, d'oublier de faire breveter mon invention. Il y a des brevets chez nous. Il n'y en avait pas en Chine au XIe siècle. Gros inconvénient.
Pourtant, vous auriez dû faire breveter, puisqu'au début, personne ne croyait à votre idée.
Tous les experts étaient contre l'idée qu'on pouvait extraire ce liquide du sous-sol par simple forage. Ils pensaient tous que ce liquide se trouvait à une profondeur abyssale et impénétrable. Je leur ai prouvé à tous ces savants que c'était faux. Il suffisait d'un trépan suspendu à un câble et actionné par une machine à vapeur. Avec mon puisatier, on a creusé seulement 23 mètres et ça a jailli très vite. Et j'étais tellement content de leur avoir prouvé à tous, ces sceptiques de malheur, qu'ils étaient dans l'erreur. Oui, ça me faisait plaisir. Ça me flattait la vanité de voir tout le monde se précipiter pour bénéficier de ma découverte, alors que personne n'y croyait avant. Ce fut l'erreur de ma vie. Surtout, faites breveter. C'est ce que je voulais vous dire, messieurs les inventeurs. Et le colonel Drake disparaît dans un nuage de fumée. L'huissier à chaîne en or frappe à nouveau avec sa canne et annonce...
Monsieur John Boyd Dunlop.
Et Dunlop apparaît avec sa longue barbe et son air malicieux.
Moi... J'ai pensé à breveter, et ça a été le succès immédiat, ainsi que ma fortune. Enfin, un petit début. À l'époque, on utilisait beaucoup les bicyclettes, donc ils avaient besoin du pneumatique à air, avec valve. Mais il y a eu un obstacle. Quand on crevait, c'était la croix et la bannière pour la réparation. Ce qui fait que les gens se sont détournés de mon invention, comme ils s'étaient détournés de celle de Charles Goodyear sur la vulcanisation du caoutchouc, et de celle de Robert Wilson, pas assez robuste, ce bandage collé sur une jante. Les brevets, c'est bien joli, mais c'est provisoire, car il y en a toujours un plus astucieux ou plus imaginatif qui par la suite améliore. C'est ainsi que je me suis fait détrôner par les frères Michelin, qui ont trouvé le premier pneu démontable, avec une chambre à air. Les brevets, vous savez, c'est une course permanente.
et Dunlop disparaît dans un nuage de fumée. L'huissier frappe à nouveau avec sa canne et annonce
« Monsieur Édouard Michelin ».
Édouard Michelin entre en scène.
« Nous avons prouvé, avec mon frère, que nous pouvions facilement démonter les pneus des bicyclettes puis ceux des automobiles. C'est le savoir-faire. Mais il faut aussi le faire savoir. »
« Qu'est-ce que c'est ?»«
Qu'on parle de vous d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, vous appelez ça la publicité. »
« Et il y a 130 ans, comment avez-vous fait parler de vous ?»«
Le bibendum ! Vous connaissez tous les bibendum, on en a mis dans des millions de voitures qui circulaient dans le monde entier. Pas besoin de payer pour la publicité, nos propres équipements la faisaient pour nous. Et puis les guides Michelin, rien à voir avec le pneu, non ? Il fallait des spécialistes de la gastronomie, des hôtels, de la nature. On a cherché dans ce domaine qui n'était pas le nôtre. Car oui, l'offre crée sa propre demande, mais il faut aussi l'étendre, la demande. Et pour y parvenir, il faut donner envie de voyager, aimer les haltes sur une belle route de campagne, à une auberge accueillante, au bord d'une petite rivière pendant qu'on répare le pneu.
La restauration, ce n'est pas la fabrication des pneus. Vous mettiez le pied dans un terrain qui vous était peu familier.
Effectivement, mais il faut toujours penser aux à côté. Il y a eu les guides et il y a eu aussi les bornes, nos fameuses bornes kilométriques, très utiles pour les automobilistes. Et puis encore les spectacles.
Les spectacles ?
Oui, le Tour de France, par exemple. On y était à chaque fois. Et aussi les courses automobiles, qui nous permettait de prouver la fiabilité de nos produits. Et encore, tous les avions Breguet Michelin pendant la Première Guerre mondiale. Puis les concours d'aviation pour récompenser le pilote qui a parcouru la plus longue distance. Le Grand Prix Michelin, que l'on décernait à l'aviateur, ayant en moins de 6 heures tourné autour de l'Arc de Triomphe, survolé la cathédrale de Clermont-Ferrand et s'étant posé au sommet du Puy de Dôme, notre département.
Avec le succès sont venus les conflits de travail, les ennemis de l'intérieur, les syndicalistes, les grèves.
Ça, c'était en 1920. Et c'est une autre histoire que mes héritiers vous raconteront un jour.
Et Édouard Michelin disparaît dans un nuage de fumée.
Histoire à la loupe.